Vous écoutez un article de l'Informateur judiciaire.
Les ordres Monaco à la source de l'essor de la vigne à Lox-Corton, Romanée-Conti, Châteauneuf-du-Pape. Ces appellations réputées, emblèmes de l'excellence viticole, ont un point commun inattendu, leur origine monacale. Derrière les plus grands crus se cachent des siècles de labeur des bénédictins, cisterciens, chartreux et autres ordres religieux. Ce sont eux, bien avant les œnologues modernes, qui ont façonné le paysage viticole du continent. Par Gaël Herouin. Dès les débuts du christianisme, le vin occupe une place essentielle. Symbole du sang du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, il est indispensable aux célébrations religieuses. Le vin est très présent dans la symbolique chrétienne. La Bible multiplie les références. Jésus, aux noces de Cana, change l'eau en vin. Dans une parabole de l'Évangile de Jean 15, Jésus dit
« Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. »
Cette nécessité pousse donc les monastères à cultiver la vigne pour subvenir à leurs besoins liturgiques, alimentaires et médicinaux. 5000 litres de vin sont ainsi consommés par an à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, source, les moines et le vin par Philippe d'Alène. Car le vin est aussi un aliment, une source de revenus et un remède dans les infirmeries monastiques. Les monastères, incubateurs de savoir-faire viticole, vers 650 est créé en Champagne le monastère d'Auvillet, près d'Épernay. Dom Pérignon y fera quelques expériences effervescentes 1000 ans plus tard. Plus amusante encore est l'histoire du moine Émilion fuyant sa Bretagne, accusé de donner trop d'aumônes aux pauvres. Dieu l'aurait aidé en transformant en bois le pain qu'il cachait sous son manteau. Arrivé du côté de Libourne, où il avait pour tâche de faire le pain, boum, deuxième miracle. Privé de ses outils par quelques plaisantins, il serait rentré de toute sa personne dans le four pour y installer les pains à la cuisson et en serait ressorti sans aucune trace. Il méritait bien qu'on le nommât Saint-Émilion et qu'on y fît un grand vin. Du IXe au XIIIe siècle, les monastères vont devenir des centres de recherche et d'expérimentation viticole. Les moines y développent des techniques de taille de la vigne, de pressurage, de fermentation et d'élevage. Ils ont le temps devant eux et le recul nécessaire. Ils sélectionnent les meilleurs cépages, observent les effets du climat et des sols, inventent même la notion de terroir. Les premières classifications de parcelles en Bourgogne datent du XIIe siècle et sont toujours en vigueur aujourd'hui. Les abeilles étaient souvent les seules institutions capables de stocker et faire vieillir le vin, établissant ainsi les premières normes de qualité. Ce savoir-faire monastique, diffusé grâce aux pèlerinages et échanges entre monastères, se propage à travers l'Europe à mesure que l'influence des ordres monastiques prospère. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au XIVe siècle, on compte 749 monastères et 400 couvents de moniales en France. Car les couvents de religieuses ne sont pas en reste, comme en témoigne le célèbre Clos de Tarbes en Bourgogne, appartenant à l'abbaye du même nom. Les moines se plaisent à répéter « Qui bon vin boit, Dieu voit ». L'adage fonctionne à merveille. Chaque abbaye possède son vignoble, souvent offert par un seigneur local. Le Clos de Vougeot, donné à l'abbaye de Citeaux en 1098, en est un illustre exemple. Le Chablis naît à Pontigny, Meursault et Musigny à Citeaux, et le Sauvignon trouve racine à Coincy grâce aux cisterciens de Beauvoir. En Allemagne, les cisterciens introduisent de la vigne dans les domaines de Steinberg et Eberbach. L'historien Desmond Seward recense 109 appellations françaises d'origine monastique, 45 en Allemagne, 27 en Autriche et des dizaines d'autres en Suisse, Italie, Espagne ou encore au Portugal. L'intelligence économique des cisterciens, fondée en 1098 par Robert de Molesme, l'ordre cistercien marque une rupture avec les excès de Cluny, une baisse de qualité par excès de production externalisée. Bref, par excès de capitalisme, les Clunisiens vont se faire chipper la vedette par les moines de Citeaux, rejoints par Bernard de Clairvaux. Ils allient ascétisme, rigueur et excellence agricole. Experts en hydraulique, en architecture et en viticulture, ils vont bientôt développer des domaines qui vont servir de modèle. Le vin devient ainsi un outil de prestige. Les meilleurs crus sont réservés aux hôtes de marque, ce qui contribue à forger une réputation d'excellence. Les abbayes deviennent ainsi des étapes prisées des nobles et des marchands. Le vin, au-delà du religieux, devient un vecteur d'influence. Les chartreux participent aussi à cette épopée viticole. Leurs célèbres liqueurs complètent leur savoir-faire déjà démontré avec leurs vignobles de Châteauneuf-du-Pape ou de Bourgogne. Les ordres militaires, tels que les Templiers, les Chevaliers de Malte ou les Hospitaliers, implantent des vignes à Bordeaux, en Méditerranée, en Orient et jusqu'en Europe de l'Est. Plus tard, à l'heure des conquistadors, les franciscains et les jésuites exporteront cette tradition viticole jusqu'en Amérique latine et en Californie, où ils fondent les premières missions viticoles. Quant à l'Angleterre, elle comptait, au Moyen Âge, près de 300 vignobles d'origine monastique. Malgré la laïcisation et les ravages des révolutions et guerres, les vignobles créés par les moines ont traversé les siècles. Ce patrimoine viticole, fruit d'un subtil équilibre entre foi, savoir et économie, constitue aujourd'hui encore un certain socle de la viticulture européenne. Les moines ont légué plus qu'un savoir-faire. Ils ont transmis une vision du vin comme reflet d'un lieu, d'un climat, d'un esprit. En cela, ils furent en grande partie les instigateurs d'une viticulture de qualité qui, partant de la France le plus souvent, aura irrigué le monde entier.